France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1997, Bernard Bonaldi recevait Laurent Terzieff pour une série de 5 entretiens d'À voix nue. C'était l'occasion de refaire avec le metteur en scène et comédien disparu en 2010 le parcours d'une existence vouée tout entière à l'art dramatique. Laurent Terzieff parlait de sa naissance dans une famille d'artistes, de sa découverte du théâtre. Le nom de Roger Blin revenait souvent. Terzieff disait tout ce qu'il lui devait. Il parlait d'Adamoff, de Beckett, de ses débuts au cinéma, de ses succès, de ses engagements politiques. Il lisait quelques pages de Rilke. Il évoquait son amitié avec Mauriac, ses expériences au cinéma avec Buñuel, Clouzot, Pasolini et Rossellini. Il parlait du théâtre contemporain, du théâtre classique, de la solitude du comédien. Il présentait le spectacle qu'il montait alors au théâtre de l'Atelier, Le bonnet de fou de Pirandello. Ici, dans ce 4e entretien qui se termine par la lecture d'un extrait de Tête d'or, il est question de Claudel. Il évoque Alain Cuny, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Laurent Terzieff s'arrête aussi sur l'œuvre du dramaturge polonais Sławomir Mrożek, dont il aura mis en scène plusieurs pièces.
Laurent Terzieff, en dehors de Nicomède de Corneille, que vous aviez, je crois, joué au Festival d'Avignon en 65. Vous avez consacré très peu de votre temps au répertoire classique, aussi bien Shakespeare que Molière, Corneille, Racine, ou plus près de nous, Musset, Marivaux. C'est volontaire de votre part ?
C'est-à-dire que moi, je vous disais hier que j'étais profondément attaché au théâtre contemporain. Évidemment, en tant qu'acteur, c'est autre chose. Mais il m'arrivait de jouer, justement, oui, Nicomède, des choses comme ça. Mais je me sens pas concerné par, si vous voulez, un travail, disons, référentiel. Voilà. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, dans le théâtre, c'est qu'il soit le reflet de la vie des hommes et le reflet de maintenant. Évidemment, bien sûr, je sais qu'on peut très bien interroger notre époque par classique interposé. Mais, encore une fois, je ne suis pas sensible à la lecture nouvelle des classiques, surtout quand c'est issu de la dialectique brechtienne ou quand c'est revisité par des dramaturges ou des professeurs. Je pense qu'il y a dans ce travail des classiques un aspect référentiel qui m'a toujours un petit peu choqué, enfin, qui tient un peu du clin d'œil dans la mesure où il installe tout de suite une complicité intellectuelle entre le public et le spectacle, entre l'acteur et le public. Et voilà ma proposition du personnage, n'est-ce pas? Bon, évidemment, ce qui me heurte dans les classiques, c'est que très souvent ça repose sur un caractère, n'est-ce pas? Et pour moi, ce que je cherche au théâtre, c'est avant tout un univers et pas un caractère. Un univers multiple, une pluralité de sens, n'est-ce pas ? Évidemment, vous me direz que le misanthrope comme caractère, c'est pas mal. Mais justement, derrière le misanthrope, il y a une espèce d'universalité, justement, de thème qui fait que ça dépasse le caractère. Il m'est arrivé de jouer des personnages de caractère, comme le philanthrope de Christopher Hampton, par exemple. Roger Blin, justement, me demandait pourquoi j'avais joué ce personnage, parce qu'il trouvait que c'était un peu du boulevard revigoré par l'avant-garde. Enfin, bon. Moi, je sais pourquoi je l'avais joué. J'avais joué parce que c'est un personnage de retrait. Et que d'habitude, j'étais plutôt la locomotive dans les spectacles. Je montais en tant qu'acteur, n'est-ce pas? Et là, je voulais prouver que j'étais capable de jouer un personnage en retrait. Ouais.
Et cette universalité, vous l'avez trouvée dans Mrożek notamment, puisque vous avez monté beaucoup de pièces de cet auteur.
Oui, c'est un des auteurs.
Et votre ami.
C'est un auteur. Oui, c'est devenu un très très grand ami. C'est un des auteurs que j'ai monté le plus avec, je crois, Saunders. Oui, parce que ce qui est très représentatif dans le théâtre de Mrożek, c'est que si la dérision est l'expression naturelle de l'époque. Alors là, indiscutablement, Mrożek est peut-être un des auteurs les plus importants Parce que il a une façon de manier la dérision dans son théâtre qui est absolument exceptionnelle. Là, il est vraiment roi. Et il y a aussi quelque chose qui m'a toujours frappé dans le théâtre de Mrojec, c'est un sens du tragique au second degré. C'est-à-dire que ce qui est tragique dans le théâtre de Mrojec, c'est que la tragédie est impossible. Parce que tôt ou tard, tout se dilue en farce. On n'a pas le droit de se prendre au sérieux, n'est-ce pas ? C'est la vie absurde qui veut ça. C'est le fait que l'univers dans lequel se meut Mrojec ne repose pas sur une échelle de valeurs dans laquelle l'homme peut se prendre au sérieux. Et donc, ce qui est tragique dans Mrojec, c'est qu'on souffre. On souffre par dérision, par séparation. Mais en même temps, on ne peut pas se prendre au sérieux. Donc, la tragédie n'est pas possible. Ça mène à vous dire que c'est très difficile de trouver, je crois, d'écrire pour le théâtre à l'heure actuelle. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que le théâtre a une fonction de sublimation, une fonction sublimante. Or, ce qui fonde une collectivité, une ethnie, un pays, une nation, c'est l'adhésion à certaines coutumes, certains types de comportements, certaines philosophies, certains idéaux. Des croyances religieuses communes, l'adhésion à un même langage fondé sur le respect de cette langue. Enfin bref, tout un ensemble d'échelles de valeurs que la vie, l'évolution de la vie a tendance à justement à tourner en dérision, et c'est pour ça que nous avons un théâtre justement de la dérision, notamment avec Mrojec, un théâtre de la séparation, un théâtre de l'absurde, de la déréliction et du non-sens. Je sais bien sûr que l'absurde, le non-sens, la déréliction étaient déjà induites dans le théâtre de Shakespeare. Mais justement, ce qui fait l'universalité du théâtre de Shakespeare, c'est que il se maintient toujours dans une extrême tension entre l'éblouissement devant le miracle que constitue l'existence et la beauté de la vie, et en même temps, une extrême tension entre l'anathème jeté sur un monde voué à un monde de souffrance, d'injustice et de barbarie, un monde voué à l'échec, à l'angoisse et au scandale de la mort. Et je trouve que cette tension plutôt entre ce que j'appellerais le monde du oui et le monde du non a tendance à disparaître dans le théâtre contemporain pour faire place uniquement au monde du non, enfin, c'est-à-dire au monde de la rupture et du pessimisme.
Vous venez de parler de croyances religieuses, vous êtes vous-même un homme de foi et vous cherchez dans les œuvres que vous servez.
Non, je n'y pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le comédien, le metteur en scène, l'artiste d'une façon générale, même s'il a la foi, même s'il adhère à certaines échelles de valeurs, ne doit pas vivre dans un monde trop grand de certitudes. Évidemment, on peut très bien dire, comme certains, je doute dont je crois, mais je pense que être trop enfermé dans un monde de certitudes et des échelles de valeurs trop précises retire cette espèce d'inquiétude qui est à la base de la création artistique. Je pense, si vous voulez, que quelqu'un qui est trop bardé de certitudes n'est pas vulnérable par la vie et par son métier aussi. Il doit évidemment si on n'est pas vulnérable, si on n'est pas appelé à souffrir par le doute, je pense qu'on ne peut pas. C'est très difficile de créer.
Et ce doute, est-ce qu'il existe dans l'œuvre de Paul Claudel que vous avez souvent joué, puisque vous avez monté au moins, vous avez participé au moins à 4 pièces,
oui.
Je pense à l'échange, à Tête d'or, l'écho est fort, Christophe Colomb. C'est un tout autre univers que celui de Mrojek.
Oui, mais vous savez, Claudel, il vient de loin. Enfin, quand Tête d'or que nous avons créé avec Jean-Louis Barrault au Tête de France. La première mouture de Tête d'or, je crois que c'était l'arbre, et à l'époque, Claudel n'était pas croyant. Enfin, je crois qu'il faisait même l'éloge de Ravachol. Je crois que Claudel est quelqu'un qui avait une foi très grande, sûrement, c'est indiscutable, mais qui en même temps n'était pas à l'abri de la souffrance. Ça, Son fils Pierre, que j'ai bien connu, lui me l'a confirmé. C'était un homme très paradoxal, évidemment, qui semblait lui aussi. Alors lui, il appartenait au monde du oui. Socialement, il a dit oui à tout le monde. Il a dit oui à Pétain, oui à De Gaulle. Il disait oui à la vie, oui à la mort. Mais je crois que il y avait derrière cet homme social, il y avait quelqu'un de secret, de très pudique d'ailleurs, parce qu'il ne montrait pas ça du tout. J'ai entendu dans ses entretiens avec Amrouche, il dit, je sais pas, Amrouche le questionne sur Nietzsche, justement, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, derrière Tête d'or, il y a une ombre nietzschéenne, c'est très 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 grande. Et alors, par une espèce de boutade comme ça, j'entends encore Claudel dire, mais vous savez, moi, Nietzsche c'était un fou, et moi j'ai horreur des fous. Il avait un certain culot de dire ça, t'as vu ce qui est arrivé à sa sœur, mais enfin voilà. Je crois que Claudel était quelqu'un de beaucoup plus double qu'on ne pense. Et moi, je sais que je dois beaucoup, en tant qu'acteur, je dois beaucoup à Claudel, parce que justement, ça s'est passé autour de l'échange avec Guy Suarez et Pascal Leboisson au Cloître Saint-Séverin, quand nous l'avons donné la première fois, dans la deuxième version. C'était une époque d'ailleurs où il n'y avait que Barrault qui montait Claudel. Hein. Il y avait eu évidemment l'événement, la révolution du soulier de satin à la fin de la guerre qu'avait monté Barrault aux Français. N'est-ce pas, on montait Claudel aux Français, on jouait l'échange de temps en temps. Mais enfin, c'était vraiment chasse gardée pour Jean-Louis Barrault. Et c'était la première fois depuis très longtemps que une jeune troupe, des acteurs peu connus, montait, jouait Claudel. Et c'était d'ailleurs la politique de Pierre, ça. Il avait dit qu'il fallait quand même que le théâtre de son père soit joué par les jeunes, soit monté et joué par les jeunes, revisité, comme on dit maintenant, par les jeunes. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai senti que mon corps est... la parole allait ensemble. Jusque-là, il y avait une espèce de dichotomie chez moi. Je sais pas, j'avais un peu du mal avec mon corps. Enfin, ça n'allait pas ensemble. Et là, dans l'échange, dans le personnage de Louis Laine, tout d'un coup, le texte est devenu physique chez moi. Je l'ai vraiment vécu physiquement. Et ça, ça a été une espèce de déclic. J'ai l'impression que j'ai fleuri, comme on disait des philosophes grecs. Enfin, là vraiment, je suis vraiment peut-être devenu un comédien là avec l'échange de Claudel au Cloître Saint-Séverin. J'avais le texte dans mon corps. Je l'exprimais physiquement. Je dansais le texte, si vous voulez.
Et Tête d'or, ça doit être un souvenir aussi assez extraordinaire. Vous étiez sur scène avec Alain Cuny, notamment.
Oui, c'est un très grand souvenir, Tête d'or. ça a été donc créé parce que Claudel ne voulait pas que cette pièce soit jouée, n'est-ce pas?
Et à moi, et pour quelle raison?
Peut-être justement parce que il y a des aspects de Tête d'Or qui ne sont pas spécialement religieux. Enfin, il y a quand même cette espèce de fond nietzschéen, n'est-ce pas? Il y a cette violence, il y a cette Claudel disait que pour monter la pièce, il faudrait que on la monte dans un endroit, c'était un peu utopique, enfin comme idée, mais enfin, elle est intéressante. Il faudrait qu'on la monte dans un lieu, dans un stalag, voilà, dans un stalag. Que ce soit monté par des prisonniers dans un stalag, comme ça, n'est-ce pas, on serait vraiment dans l'univers dans lequel lui-même se trouvait quand il a écrit Tête d'Or. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui cherche une issue. Et on avait ouvert le théâtre de l'Odéon que Malraux avait donné à Barrault. C'était le théâtre de France. Barrault avait appelé ça le théâtre de France. Je pense que la pièce n'est pas une pièce facile, loin de là. Et étant donné l'enjeu de l'ouverture, je pense que Barrault n'aurait pas souhaité ouvrir avec cette pièce-là. Mais Malraux y tenait beaucoup. Malraux y tenait beaucoup. Il voulait en faire une espèce de point de départ emblématique. Lui-même était très, 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 très accroché à la pièce. Et il nous confiait d'ailleurs que c'était une pièce pour les jeunes. Il ne se trompait pas d'ailleurs, parce que quand on a repris la pièce, je crois 7 ans plus tard, parce que ce qu'il faut signaler avec Tête d'Or, c'est que ça a ouvert le théâtre de France avec Barrault, et ça l'a fermé en même temps, puisque on a fait la reprise 8 ans après, une reprise qui s'imposait, et c'était la fin de la saison. Après, il a donné son théâtre au Théâtre des Nations, et très vite il y a eu le mai 68, et le théâtre a été occupé, et donc ça a été le premier et le dernier spectacle de Barrault au Théâtre de France. Et ça a été un très, très, très grand souvenir. Alors évidemment, Malraux voulait donc que ce soit vraiment pour emblématiser encore davantage l'ouverture du Théâtre de France qu'il remettait à Barrault, n'est-ce pas ? Il a fait venir le général, il y a eu un gala. Et c'était très éprouvant, ce gala, parce que c'était la première grande manifestation de la Ve République. Il y avait tout le monde, tout le Paris décoré officiel était dans la salle. Il y avait une telle atmosphère de sacralisation sociale, un tel aspect pontifiant et officiel dans la salle que vraiment, je me souviens que Craven m'a dit si j'avais voulu vendre des places au marché noir, j'aurais fait fortune. Enfin, et tout le monde voulait être là. Et ça a été un fiasco, ce gala, parce qu'il y avait une contradiction là aussi. Ça, Claudel aurait préféré qu'on joue la pièce dans un stalag, j'imagine. Parce que là, il y avait une contradiction vraiment incroyable entre l'atmosphère de la salle et ce qu'on disait sur le plateau. Et il y avait un mur kafkaïen d'incompréhension. Ce qui fait que la générale qui a eu lieu le lendemain ou le surlendemain, c'était un délice à côté. Enfin, voilà, c'était un très grand souvenir, cette Tête d'Or, parce que...
Ça a été l'occasion
avec j'étais très ami avec Alain Cuny. Le hasard faisait que justement l'été qui avait précédé, je tournais mon premier film en Italie, La Notte Brava, avec Bolognini, et lui-même Cuny tournait La Dolce Vita, et on se retrouvait, on savait qu'on jouerait ça à la rentrée ensemble, et on se retrouverait tous les soirs dans les trattoria ou au bord de la mer, comme ça, en sortant du tournage, et on lisait nos scènes ensemble, comme ça. Et c'était vraiment un merveilleux souvenir. C'était Cuny était un acteur prodigieux, c'était un grand, grand, grand tragédien. Il était superbe dans le rôle. Ça a été un petit peu difficile, parce que, vous savez, Cuny aussi était un homme blessé. C'était un homme très difficile, il était très exigeant vis-à-vis de lui-même, il avait beaucoup de difficultés Alors, il avait tendance inconsciemment à faire porter le poids de ses difficultés sur les autres, enfin inconsciemment. Et là, en l'occurrence, c'était Barreau. Tu vois. Mais ils se sont réconciliés par la suite. Quand il y a eu la reprise a eu lieu quelques années après, ils étaient de nouveau très très amis. Mais enfin, c'était un petit peu difficile. Je me souviens ces répétitions parce que. Je me souviens que il y a eu, avant la veille de la première, il y a eu une espèce de couturière pour Malraux, qui n'avait jamais assisté aux répétitions. Et donc, à l'issue de cette représentation, on s'est rejoint devant ma loge, là où il y avait Cuny, Barreau, Madeleine Renaud. Et Malraux, donc, et Malraux était très gentil avec Cuny. Il lui a dit vous me rappelez tel masque de je ne sais quelle période incarne, n'est-ce pas, ou qui représente tel dieu, et ce masque ressemble à l'image mythique que les populations se faisaient de ce dieu-là, et là, de même, pour moi. Vous êtes ressemblant au simoignel que j'avais dans l'esprit, n'est-ce pas? Vous lui ressemblez tellement que c'est vous. Enfin, voilà. Et alors, Alain ne se sentait plus de joie parce qu'il avait une grande estime pour Malraux. Et alors, il dit, mais je suis très touché. Il lui a dit ce que vous dites parce que moi-même, j'ai une grande admiration pour vous. Je n'ai de cesse de retrouver votre discours sur l'architecture que vous avez prononcé à Brasilia, etc. Alors, Malraux dit, mais dès demain, un motocycliste du ministère vous apportera le texte, mais bien sûr. Etc. Puis alors là-dessus, Cuny dit, mais enfin, je suis content de ce que vous avez dit, mais il faut que vous sachiez que ce que j'ai fait dans le rôle, c'est une caricature, une pantalonnade, une grimace par rapport à ce que j'aurais dû faire, n'est-ce pas? Mais je dois dire que je me suis très mal entendu avec Jean-Louis ici présent, n'est-ce pas? Nos vues divergeaient totalement. Là, j'ai vu que Malraux, qui avait, comme chacun sait, tendance à avoir des tics. Ces tics ont redoublé, n'est-ce pas? Il ne savait pas du tout où il était. Alors, il y a eu un froid, et Madeleine s'est mise à sauter, comme ça, voulant détendre l'atmosphère, en disant « Ah, sacré Alain, tu n'en diras jamais d'autre, etc. » Et alors là-dessus, Barreau dit « Mais écoute, Alain, c'est pour toi, c'est parce qu'on t'aime. Tout ce que je t'ai dit, c'était pour que tu sois au mieux de toi-même. » Enfin. Alors là, Cuny a été vraiment cinglant. Il a dit, mais Jean-Louis, on peut aimer et desservir. Il est de bonne volonté redoutable. Et je voyais l'éthique de Malraux qui augmentait au fur et à mesure. Mais enfin, encore une fois, c'était tout à fait. C'est le genre de choses qui arrivent très souvent dans le métier, où les gens ne s'entendent pas pendant les répétitions, puis après, ils sont très amis. Et, voilà. Mais enfin, je me souviens surtout de la tête éberluée de Malraux.
Et vous avez des souvenirs aussi pittoresques sur Christophe Colomb?
Non, je me souviens aussi que ce gars-là de Tête d'Or, je m'y attendais pas. C'était un démarrage de pièce très difficile. Très difficile parce que ça commençait par « Me voici imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues ». Je m'en souviens encore. Attaquer une pièce avec ça, ça demandait une très grande concentration. Je n'ai pas de méthode, d'une façon générale, ni comme acteur, ni comme metteur en scène. Donc, je ne suis pas l'acteur qui dit quoi qu'il arrive, il faut arriver au théâtre à 4 heures de l'après-midi, il faut se concentrer, Mais là, vraiment, j'avais besoin d'être maquillé, habillé une demi-heure avant sur le plateau pour, justement, pour essayer d'entrer dans cet univers d'adolescent, n'est-ce pas, qui s'adresse tout simplement à Dieu et qui lui dit qui je suis, voilà. Et c'était très fort, ça avait une densité, c'est un texte qui avait une densité métaphysique très 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 forte. Et j'entends les trois coups, Et puis là-dessus, la Marseillaise. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été, j'ai eu beaucoup de mal. Oui. Il y a eu même un couac, d'ailleurs, dans la Marseillaise. Je n'étais pas le seul à être ému.
Oui, pour Christophe Colomb, vous avez aussi des souvenirs pittoresques.
Oh non, non. Moi, je m'entendais très bien avec Jean-Louis. J'avais beaucoup de tendresse pour lui et c'était une merveilleuse aventure. On l'a donc créé au théâtre. C'était le théâtre d'Orsay d'ailleurs à l'époque. Oui, c'était le théâtre d'Orsay. Et puis après, nous avons fait une grande tournée en Russie. Et par la suite, je crois, à Vienne, Zurich, tout ça, oui.
Vous venez d'évoquer des souvenirs concernant votre rôle de Sébeste dans Tête d'or de Paul Claudel. Auriez-vous la gentillesse de nous lire peut-être le début de la pièce ?
Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Je tourne la face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien et je ne peux rien. Que dire, que faire? À quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent, comme les songes? Tout ce qu'on dit, et la raison des sages m'instruit avec la sagesse du tambour. Les livres sont ivres. Et il n'y a rien que moi qui regarde. Et il me semble que tout, l'air brumeux, les labours frais, les arbres et les nuées aériennes me parlent avec un langage plus vague que le ya, ya de la mer, disant ô être jeune, nouveau, qui es-tu? Que fais-tu? Qu'attends-tu, hôte de ces heures qui ne sont ni jour, ni ombre, ni bœuf qui hume le sommeil, ni laboureur attardé à notre bord gris? Et je réponds, je ne sais pas. Et je désire en moi-même pleurer ou crier ou rire ou bondir et agiter les bras. Qui je suis ?
Quatrième entretien de Laurent Terzieff pour la série D'Avoix Nues proposée par Bernard Bonaldi a été diffusé pour la première fois le 29 mars 1997. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des Nuits sur le site franceculture.fr. Yeah.